Європейське.
Крастовіщі на Європі.
Куземем туди Європа.
Ставродромитись Європіс.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Bonjour, bienvenue Carrefour de l'Europe. Boris Johnson a gagné son pari et sauf un probable rebondissement de dernière minute, la Grande-Bretagne quittera l'Union européenne le 31 janvier prochain. Jamais depuis Margaret Thatcher, les conservateurs n'avaient connu pareille victoire. À l'inverse, les travaillistes n'avaient pas connu une telle débâcle depuis 1935. Passé le moment d'euphorie, le Brexit annonce-t-il des jours heureux pour les Britanniques ou au contraire une grande incertitude? Cela dépend en grande partie de ce que Boris Johnson fera de sa victoire dans les négociations à venir avec l'Union européenne. Optera-t-il pour le grand large ou essaiera-t-il de nouer une relation étroite avec les Européens du continent? Si le divorce est désormais prononcé, le Brexit n'est pas fini pour autant. La saison 2 commencera le 1er février prochain avec ses négociations sur la future relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints en direct du studio 41 de RFI. Bonjour Patrick Genier, Martin Genier, pardon.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris et à l'INALCO. L'INALCO, c'est l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Et vous avez écrit en début d'année un livre aux éditions Studirama qui s'appelle « L'Europe a-t-elle un avenir ?» J'imagine que vous avez conclu par « oui ».
Bien sûr.
Joe John, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être en ligne de longue. Vous êtes ancien journaliste et aujourd'hui politologue. Merci d'être en ligne de longue. Vous allez évidemment nous commenter et le résultat de ces élections et ce qui va se passer bientôt au Royaume-Uni. Alors ici, de ce côté de la Manche, on a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe au Royaume-Uni. Alors je ne sais pas si c'est... Vous allez devoir nous éclairer. Je ne sais pas si ça va être si facile que ça. Et Sacha Michel, bonjour Sacha Michel.
Bonjour Daniel.
Vous êtes journaliste à Courrier International, on vous entend régulièrement. Et là, vous êtes dans le studio 41 de RFI.
C'est un plaisir.
Et vous êtes en charge des pages anglo-saxonnes pour Courrier International.
À ce stade, il semble que ce gouvernement conservateur ait reçu un nouveau mandat. Pour mettre en œuvre le Brexit, pas seulement pour le faire, mais pour unir ce pays, le faire avancer et se concentrer sur les priorités du peuple britannique et puis surtout sur notre système de santé. Et oui, nous recruterons 50 000 infirmières, 6 000 médecins généralistes et puis nous construirons 40 nouveaux hôpitaux. Mais surtout, je tiens à remercier la population de ce pays d'avoir voté lors de cette élection de décembre que nous ne voulions pas organiser, mais qui, je pense, s'est avérée être une élection historique. Cela nous donne maintenant, avec ce nouveau gouvernement, la chance de respecter la volonté démocratique du peuple britannique, de changer ce pays pour le mieux et de libérer le potentiel de l'ensemble du peuple. Of the entire
people. Voilà Boris Johnson qui ne boude pas son plaisir, c'était lors de la proclamation des résultats. Alors avant de voir plus avant les conséquences de ce Brexit qui cette fois-ci est bien parti, nous allons revenir sur cette élection de jeudi dernier qui restera quand même dans l'histoire politique britannique et parce qu'elle bouleverse un peu ce paysage politique britannique. Alors Patrick Martin-Genier, le raz-de-marée des conservateurs, le triomphe de Boris Johnson, peu l'avait prédit.
Oui, alors peu l'avait prédit à cette échelle. En effet, tout le monde pensait qu'il fallait se sortir de ce Brexit, de cette impasse politique de la Chambre des communes qu'a traîné Theresa May pendant 2 ans. Et effectivement, cette avance était prévue. On disait entre 10 et 15 points d'avance au début des élections, mais cet écart s'était resserré à tel point qu'on disait qu'on avait la possibilité éventuellement d'avoir de nouveau un Parlement sans majorité. Et que se passe-t-il le jeudi soir à l'issue des élections? C'est une victoire écrasante, plus de 80 sièges de majorité, avec surtout, la disparition des citadelles travaillistes, des bastions travaillistes du Nord, est de l'Angleterre, nord-ouest, qui fait qu'en effet, il dispose aujourd'hui d'une majorité absolue de plus de 80 sièges. Cette victoire était manifestement inattendue.
C'est du jamais vu depuis Margaret Thatcher. Alors, Joe Jones, qu'est-ce qui explique ce succès, ce triomphe de Boris Johnson? Est-ce que la première explication, c'est pas tout simplement un ras-le-bol des Britanniques qui ont voulu en finir avec le Brexit qui monopolise la vie britannique et même, je crois, la vie familiale des Britanniques depuis 3 ans et demi?
Oui, certainement, mais comme on va certainement discuter, s'ils espèrent en finir avec le Brexit, ils vont être largement
déçus. Ah, bien sûr, on va en parler dans 2020. Plus longuement.
Mais c'est vrai que un des énormes changements pour nous, c'est que Depuis 3 ans, plus que 3 ans, on n'a pas connu un gouvernement qui a la possibilité de faire quelque chose. Notre politique a été entièrement paralysée. Maintenant, avec la dominance conservateur et de Boris Johnson comme Premier ministre, il peut claquer les doigts et le Parlement va sauter et va le suivre. Ça, c'est vrai que je crois que le peuple britannique était fatigué. Il y avait une lassitude d'un Parlement qui menait nulle part. Et maintenant, on va voir s'ils sont contents avec le chemin que va poursuivre leur nouveau et dominant Premier ministre.
Est-ce que la personnalité de Boris Johnson a joué un rôle? Alors, on a tendance un peu à le prendre ici, de ce côté-là de la Manche, un peu comme en fanfaron, avec ses cheveux ébouriffés, ses costumes jamais totalement ajustés. Alors, peut-être qu'on l'a sous-estimé et que sa personnalité, finalement, était en phase avec les désirs des Britanniques.
Je crois que sa personnalité, surtout, il ne faut pas oublier que c'était un maire de Londres et Londres, c'est maintenant c'est dominé par les travaillistes, mais l'extérieur de Londres, ça a toujours été, comme vous le savez, c'est une ville très très mixte. Il a largement pu remporter la ville en tant que maire, et maintenant il a exploité sa personnalité au-delà du capital. Mais je crois que c'est surtout la personnalité de son opposant qui a joué. Je crois que le problème, c'est que Boris Johnson, il continue à être un homme politique qui divise et qui partage. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui est fan du nouveau Premier ministre, mais c'est presque personne qui était fan de Jeremy Corbyn, qui reste chef de l'opposition, mais pendant pas très longtemps, je crois que tout le monde qui soutient le parti travailliste doit espérer.
On va évidemment parler dans un moment de Jeremy Corbyn. Patrick Martin-Genier, une caractéristique aussi de cette élection britannique de jeudi dernier, c'est que les Brexiteurs ont présenté un front uni, les Tories d'un côté, c'est-à-dire le Parti conservateur, et puis le parti du Brexit, celui de Nigel Farage, qui a joué un peu le rôle de faire-valoir, puisqu'il n'a pas présenté de candidat dans les circonscriptions où il y avait un député sortant conservateur, face aux Remainers, c'est-à-dire ceux qui veulent rester dans l'Union européenne, qui étaient très très dispersés et qui n'ont même jamais été capables de s'appuyer sur un leader qui s'est imposé, qui a défendu l'intérêt pour la Grande-Bretagne de rester dans l'Union européenne.
Oui, tout à fait. Et je crois que Nigel Farage a bien compris. De toute façon, vous savez, il était parti, il a été le premier parti aux élections européennes et il est descendu à 3%. Résultat des courses, il n'a eu aucun élu à la Chambre des communes. Donc, il a eu l'intelligence de dire on va essayer de promouvoir les candidats conservateurs qui veulent sortir de l'Union européenne. Et il s'est appuyé là-dessus. Mais la grosse erreur des autres partis, c'est de croire que les Britanniques auraient souhaité rester dans l'Union européenne. C'était le grand message de Jo Swinson, la libérale, qui a d'ailleurs elle-même perdu son siège, en disant restons dans l'Union européenne, mais les Britanniques voulaient s'en sortir. C'était le seul message. Alors on pensait qu'il pourrait y avoir un vote tactique en disant on va favoriser les candidats qui veulent rester dans l'Union européenne. Ce vote tactique n'a pas fonctionné. Et on pensait qu'il y aurait un vote jeune qui pourrait compenser les partisans du Brexit. Ce vote jeune n'a pas eu lieu non plus. Ce qui fait que face à un message de Boris Johnson qui était extrêmement clair, il n'y avait plus qu'une alternative, c'était effectivement voter pour sortir de l'Union européenne. Et comme vous le dites, les autres candidats qui voulaient rester soit dans l'Union européenne, soit avoir un accord, eh bien, n'étaient pas crédibles du tout. Surtout que Jeremy Corbyn n'a pas été clair du tout. Et les ouvriers, les mineurs du nord de l'Angleterre ont eu le sentiment, c'est le terme qui était dans la presse britannique, d'avoir été trahi par Jeremy Corbyn, qui a été incapable de leur dire ce qu'il ferait à l'issue de ces élections. Et tout cela, naturellement, a joué en faveur de Boris Johnson.
Alors, un grand vainqueur et un immense perdant, le parti travailliste, d'abord son leader, Jeremy Corbyn, qui a perdu près de 60 sièges, 59 très exactement. Alors évidemment, une incapacité de se positionner par rapport au Brexit. On ne sait toujours pas quelle était vraiment la position de Jeremy Corbyn sur le Brexit. À la fois demandant un nouveau référendum et jamais une position claire. Oui ou non, je suis pour ce Brexit ou je suis contre. Et puis, un programme à contre-courant des attentes des électeurs. Alors comment expliquer la débâcle des travaillistes? Pour tenter de le comprendre, Sacha Mitchell, vous avez retenu dans Courrier International un article au vitriol du du Spectator, qui fustige la stratégie du Labour de devenir un parti élitiste de jeunes urbains suréduqués à l'attitude condescendante avec son électorat ouvrier traditionnel.
Absolument, Daniel. Et il y a une expression qui le symbolise absolument, cet échec, c'est le mur rouge ou « red wall » en anglais. Le mur rouge, c'est cette succession de bastions travaillistes qui s'étend du Pays de Galles jusqu'au nord de l'Angleterre. Et bien ce mur rouge, il s'est effondré jeudi 12 décembre. Il s'est effondré brique après brique, jubile l'hebdomadaire conservateur The Spectator. Des sièges tenus par les travaillistes depuis plusieurs dizaines d'années. On peut par exemple citer celui de la circonscription de Bolsover, tenu par le même député, ancien mineur, depuis un demi-siècle. Eh bien, ils sont tombés dans l'escarcelle des conservateurs. Et c'est ce qui rend la claque encore plus violente. Les anciens mineurs du Pays de Galles et les ouvriers du nord de l'Angleterre font aujourd'hui davantage confiance à un excentrique sorti du collège privé d'Eton, à savoir Boris Johnson, qu'au parti travailliste. Pour le chroniqueur Brendan O'Neill, habitué des textes acerbes, c'est toute la stratégie de Corbyn et de ses militants, je cite, Bobo urbain et élitiste, comme vous le disiez Daniel, qui a été mise en échec. Comme il le martèle tout au long de son article, le Labour a méprisé le choix de l'électorat ouvrier sur le Brexit en s'engageant à organiser un second référendum et le parti a tourné en ridicule les valeurs ouvrières, les a taxées de racisme et de xénophobie au seul motif que les travailleurs du Nord critiquaient l'Union Européenne. En résumé, les travaillistes ont fait preuve de mépris de classe et c'est ironique. Et c'est ce mépris pour l'électeur ordinaire qui a détourné tant de Britanniques de cette nouvelle gauche post-ouvrière qu'incarne le Labour. Ce sont encore les mots de Brendan O'Neill. Et résultat, ces électeurs se sont tournés vers Boris Johnson, un leader avec qui ils n'ont rien en commun, mais qui leur a dit ce qu'ils avaient besoin d'entendre, que leur vote de 2016 sur le Brexit serait respecté au plus vite. Alors le mur rouge s'est-il effondré à cause de Jeremy Corbyn lui-même ou parce que le Labour a trahi le Brexit? Le débat est lancé et devrait faire rage au cours des semaines à venir, prédit Brendan O'Neill, notamment vu de la course à la succession de Corbyn à la tête du parti. En tout cas, la classe politique ne manquera pas d'en tirer cette leçon de la plus haute importance, conclut-il, quand on foule au pied un vote populaire démocratique, le Brexit, la sanction de l'électorat tombe.
Merci Sacha Mitchell, c'est évidemment un article à lire dans Courrier International et l'Hebdo, et puis dans courrierinternational.com, le site. Joe Jones, on a compris qu'il faut s'attendre à des règlements de compte chez les travaillistes. Jeremy Corbyn est déjà sur le départ, ou presque. Qui pourrait le remplacer sur quelle ligne? Est-ce que le Parti travailliste va rester sur une ligne, on va dire, un peu très à gauche?
Le seul positif pour les travaillistes, c'est que le résultat est tellement clair qu'il n'y a aucune possibilité de juste continuer comme avant. Alors, c'est sûr que qui que soit le prochain chef du parti, il va falloir qu'il représente quelque chose de différent. Il faut dire que Brendan O'Neill dans le Spectator, c'est pas un ami loin de là du parti travailliste, mais je partage pas mal de son analyse, ce qui m'a toujours frustré avec Jeremy Corbyn et ses collègues autour, c'est que c'est pas un homme politique qui écoute les gens. En fait, j'ai l'impression que les gens ne l'intéressent pas énormément, surtout peut-être la classe ouvrière, ce qui est un problème pour un chef du Parti travailliste. Il avait un programme, c'est un idéologue. Il a dit vous allez accepter ou vous allez rejeter et les gens ont largement rejeté. Ce qui est clair, c'est que le parti maintenant est en désarroi. Je pourrais citer plusieurs noms de possibles chefs du parti pour l'avenir, mais je crains que personne, d'entre vous, mais surtout d'entre les auditeurs,
on ne les connaît pas,
connaîtront aucun. Et ça, c'est vrai aussi pour l'électorat britannique.
On va attendre
ils sont vraiment au fond actuellement, et ça va être un long retour pour les travaillistes.
Alors on va attendre que les partis travaillistes choisissent un leader, puis on apprendra à connaître son nom petit à petit. Alors un grand vainqueur, Boris Johnson, un grand perdant, Jeremy Corbyn, et puis aussi un deuxième grand vainqueur régional, celui-là, les indépendantistes écossais, le SNP, le Scottish National Party, a gagné 13 sièges, ce qui est considérable. Il en totalise 48 au total sur les 59 représentant l'Écosse à Westminster. Et sa leader, Nicola Sturgeon, a immédiatement réclamé la tenue d'un deuxième référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Patrick Martin Gémier, c'est le début de la désunion du Royaume ?
Ah, je crois que c'est très grave ce qui vient de se passer. Ça risque de désagréger. Les forces centrifuges vont se multiplier naturellement lorsqu'on gagne à 48 sièges sur 59. Alors évidemment, ce n'est pas la totalité des sièges, mais c'est une victoire éclatante. Et là, on voit tout de suite qu'il y a un affrontement considérable, immédiat. L'affrontement, il est total entre Boris Johnson et Nicola Sturgeon, qui est la chef du gouvernement régional, la première ministre écossaise. Elle a réclamé immédiatement, le soir même des élections, un nouveau référendum. Et immédiatement, Boris Johnson a dit non. Et dès lors qu'il faut l'autorisation de la Chambre des communes, l'autorisation gouvernementale, à partir du moment où Boris Johnson dispose d'une majorité de 80 députés, évidemment que ce sera non. Et donc l'affrontement va être total pendant plusieurs années. Alors, que va-t-il se passer ensuite? C'est certain qu'elle va réunir son Parlement dès cette semaine. Et elle compte en fait sur les élections régionales qui vont avoir lieu en 2021 pour asseoir sa légitimité, sa demande d'un nouvel référendum. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous me passez l'expression, eh bien, la situation est complètement bloquée.
Alors, en Écosse, un vote anti-Brexit. En Angleterre, un vote pro-Brexit, globalement. Sacha Mitchell, c'est un peu l'affrontement de deux nationalismes, le nationalisme anglais et le nationalisme écossais de l'autre.
Absolument. Et puis, pour prolonger ce que disait Patrick Martin-Genier, il y a la presse écossaise, et notamment la presse indépendantiste, qui est symbolisée par le quotidien The National, elle titrait jeudi que l'Écosse était un pays à part parce que effectivement quand l'Angleterre et le Pays de Galles se teintaient du bleu du parti conservateur, l'Écosse se teintait de jaune, de la couleur du SNP, du parti national écossais. Effectivement, on peut le voir comme ça, on peut le voir comme un affrontement entre les deux identités qui sont les identités écossaises et l'identité anglaise. Et pour ce qui concerne l'identité écossaise, là, elle est symbolisée, ou en tout cas, elle est incarnée par un désir de rester dans l'Union européenne. Avant le référendum de 2014, les nationalistes écossais disaient que c'est l'occasion qui ne se représentera qu'une fois par génération. Donc effectivement, Boris Johnson, quand il dit non, il ne peut pas y avoir de second référendum sur l'indépendance 5-6 ans seulement après, il a raison et le Scottish National Party l'a dit lui-même, mais la donnée fondamentale qui a changé, c'est que le Brexit
parce que le précédent référendum avait lieu en 2014, soit avant tous ces événements liés au Brexit.
On n'avait pas encore inventé le mot Brexit en 2014. Non. Pas vraiment. Alors, évidemment, en Écosse, donc, mais aussi en Irlande du Nord, on a assisté à une poussée nationaliste. Alors, on arrive un peu au terme de la première partie de cette émission, mais on va quand même en dire un petit mot. C'est notamment la poussée du Sinn Féin, qui a pour la première fois fait jeu égal, enfin il y a 19 représentants, et pour la première fois les unionistes protestants favorables au maintien de l'Irlande du Nord dans le Royaume-Uni ont perdu la majorité. C'est évidemment un moment historique de l'histoire britannique.
C'est un moment historique, c'est très grave aussi pour le parti unioniste, pour les unionistes. Ils ont perdu 2 sièges en réalité dans des endroits extrêmement symboliques, puisque c'est Belfast, et dont Belfast Nord, et qui était la circonscription du chef des unionistes à la Chambre des communes. Donc c'est une défaite cinglante. Comme vous l'avez dit, le DUP et les partis unionistes sont désormais minoritaires en Irlande du Nord. Ils sont à 9 sièges sur 18, ce qui fait qu'avant ils étaient majoritaires, maintenant c'est fini. Donc c'était véritablement une défaite cinglante pour eux qui va les obliger d'ailleurs à réfléchir sur leur propre stratégie.
Sacha Mitchell, un mot.
Oui, la nouveauté, c'est que donc les unionistes, le DUP a perdu 2 sièges au profit d'un parti qui s'appelle Alliance. Mm-hmm. Et qui est en fait un parti qui ne représente aucune des 2 divisions religieuses,
c'est-à-dire
qui n'est pas un parti communautariste, absolument. Et ça, c'est un changement aussi qu'il est important de noter. Comme pour l'Écosse, on ne va pas vers une réunification de l'Irlande demain ou après-demain, mais tout dépendra. Là aussi, c'est en suspens. Tout dépend de ce que va donner le Brexit, de ce que vont donner les négociations, surtout. Sur le futur accord commercial.
On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète, et ce sera avec Raphaël Del Volvé. A tout de suite, on va revenir sur le cas irlandais, qui est évidemment un problème majeur dans ce Royaume-Uni, après ce vote historique de jeudi dernier. A tout de suite donc.
Κραστούβιχτη να Ευρώπα.
Κουζμίον του τα Ευρώπα.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Boris Johnson a gagné sur Paris et sauf un probable rebondissement de dernière minute, la Grande-Bretagne quittera l'Union Européenne le 31 janvier prochain. Passé ce moment d'euphorie, le Brexit annonce-t-il des jours heureux pour les Britanniques ou au contraire une grande incertitude? Cela dépend en grande partie de ce que Boris Johnson fera de sa victoire dans les négociations à venir avec l'Union Européenne. Optera-t-il pour le grand large ou essaiera-t-il de nouer une relation étroite avec les Européens du continent? Si le divorce est désormais prononcé, le Brexit n'est pas fini pour autant. La saison 2 commence donc le 1er février prochain avec les négociations sur la future relation entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints ici en direct du studio 41 de RFI. Patrick Martin-Jeunier, il est enseignant à Sciences Po Paris et à l'INALCO. Il est l'auteur de « L'Europe a-t-elle un avenir ?» aux éditions Studirama. Joanne Jones, ancien journaliste politologue, est en ligne de Londres. Et Sacha Mitchell est journaliste à Courrier International. Alors Joanne Jones, on a parlé de l'Irlande, du risque d'un éclatement du Royaume-Uni. Est-ce que ce risque, vous le partagez? Est-ce qu'il est présent dans l'état d'esprit de vos concitoyens?
Pas encore, je pense. Je crois que mes co-citoyens n'ont pas encore compris les risques qui seront en jeu l'année prochaine sur un possible accord avec l'Union européenne, ni le risque d'un dont vous parliez juste avant les infos là, que l'Union de la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni va commencer à se désolidariser. Mais ce sont des risques pour demain, pour Boris Johnson. C'est pas pour tout de suite.
Oui,
pour
sûr,
le moment,
oui.
Il va se réjouir de ce qu'il a réussi. Et je crois qu'on ne peut pas vraiment savoir quel Boris Johnson va se présenter pendant les négociations avec l'Union européenne. C'est quelqu'un que, quand il était le maire de Londres, il était assez libéral sur l'immigration, par exemple, et très pour le commerce international. Il y en a qui pensent que il va probablement, après une période où il était le prisonnier de ces Brexiteurs absolus, maintenant se libérer et montrer une face très différente. Je crois que pour le moment, on ne sait pas, mais ce qui est sûr pour moi, c'est qu'il est motivé par... par comme son ami Donald Trump, the deal, l'accord à la fin. Il sait qu'il va y avoir des compromis et il est dans une position de force où les compromis seront possibles.
Alors, comment les Britanniques en sont arrivés là? Courrier International a consacré sa une à « dans la tête des Anglais ». Et c'est vrai que c'est pas facile d'être dans la tête des Anglais, de comprendre ce qui s'est passé. Et je vais prendre juste un extrait du New Statesman qui explique « L'Angleterre est difficile à comprendre, les Anglais eux-mêmes ne la comprennent pas », Sacha Mitchell.
Voilà, je crois que tout est dit, c'est tout un programme aussi. Mais effectivement, ce que dit cet article du New Statesman, c'est que en réalité, à l'heure actuelle, c'est un peu l'Angleterre qui entraîne le reste du royaume en dehors de l'Union européenne. Donc ce qu'a essayé de faire cet hebdomadaire, qui est un hebdomadaire de gauche, mais qui n'a pas, par exemple, appelé à voter pour Jeremy Corbyn et pour les travaillistes de Jeremy Corbyn dans cette élection, c'est d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Alors, tout ce qui est... les sondages qui ont été réalisés, les enquêtes d'opinion qui ont été faites après le Brexit montraient que les Anglais avaient cette envie de retrouver une certaine souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté sur les lois qui régissent la société anglaise et britannique. Et donc c'est ça qui explique la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et elle doit aussi cette situation de blocage, de remise en question, elle doit aboutir sur quelque chose de plus positif en remettant un peu en cause tous les mythes qui sont beaucoup tournés vers le passé qui constituent en tout cas l'identité anglaise et que de cette situation assez difficile ressorte quelque chose de positif.
Alors, John, vous aviez commencé à nous expliquer qu'on ne sait pas ce qu'allait faire Boris Johnson de sa victoire. Alors, déjà, que va-t-il faire avec les Européens? Mais que va-t-il faire déjà au sein du gouvernement britannique en vue du peuple britannique? Il s'est par exemple engagé à sortir de l'austérité, et pourtant les conservateurs ont mené cette austérité depuis très très longtemps. Il s'est engagé à redynamiser le service national de santé en construisant 40 hôpitaux, il nous l'a expliqué on l'a entendu dans la première partie de cette émission, ce qui est relativement contradictoire avec le Brexit, puisque de nombreux médecins et personnels soignants sont des Européens non britanniques, donc il y a évidemment toujours beaucoup de contradictions. Sur le plan intérieur, que peut faire Boris Johnson et qu'est-ce qu'il a envie de faire? On le sait un peu ou pas du tout?
Oui, je crois qu'on sait les principes de base. Il a été très clair qu'il va y avoir beaucoup d'investissements dans les services publics. C'est quelque chose que ses nouveaux supporters, anciens travaillistes, qui ont mis la foi dans Boris Johnson, ont réclamé. Alors, il va répondre à ça et il va complètement. Je suis pas étonné de voir qu'il va faire une énorme réforme de Whitehall, c'est-à-dire de l'apparat du gouvernement. Il va changer les départements, les ministères. Et son conseiller Dominic Cummings qui est derrière beaucoup de ces idées depuis longtemps, c'était le conseiller de Michael Gove avant. Il a rêvé de pouvoir changer et attaquer à ce qu'il appelle la complaisance de Whitehall. Ça va pas s'attendre longtemps. Ça va être une sorte de révolution des fonctionnaires qui va certainement leur faire peur pendant la période de Noël et de Nouvel An, parce que ça va venir en février-mars très vite.
Ils vont passer un mauvais Noël, les fonctionnaires, on a compris. Patrick Martin-Génier, il y a évidemment des contradictions dans ce Brexit et dans les électeurs du Brexit, ceux qui ont soutenu le Brexit il y a donc 3 ans et demi maintenant. Les terres travaillistes du Nord, vous l'aviez un peu évoqué dans la première partie de l'émission, les terres travaillistes du Nord de l'Angleterre, désindustrialisées, attendent une atténuation des effets de la mondialisation, alors que d'autres espèrent une plus grande libéralisation et une plus grande ouverture encore du Royaume-Uni. Ce sont ceux qui espèrent faire de Londres la nouvelle Singapour sur Tamise. Ça fait beaucoup de contradictions.
Mais Boris Johnson n'est à lui-même qu'une somme de contradictions. C'est quelqu'un, vous dites, il va investir dans les services publics, mais ça fait 10 ans qu'il y a un gouvernement conservateur. Je lisais à la veille des élections, 4000 écoles publiques, parce que les écoles privées sont bien soignées, sont en état de délabrement et de péril imminent. Dans le service national de santé, un personnel de santé, qu'il s'agisse d'infirmières, de médecins sur 4, est d'origine étrangère et on est en train de leur dire que l'immigration prend la place des Anglais. Mais sa ministre de l'Intérieur, qui est une des plus à droite qui ait connu l'histoire britannique, a commencé à dire qu'ils allaient mettre en place un système d'immigration à points comme il y a en Australie, en faisant la distinction entre les gens de talent, les gens qualifiés et les ouvriers et les personnels non qualifiés qui sont l'essentiel au final. Quand vous allez à Londres, que vous devez connaître, vous allez dans un café, un bar, il y a des Polonais, des Italiens, des Français. Moi, j'ai jamais vu d'Anglais vraiment travailler dans des magasins de proximité. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de contradictions. Comment va-t-il pouvoir construire 40 hôpitaux alors que les finances publiques sont exsangues? Comment va-t-il pouvoir recruter 20 000 policiers supplémentaires alors que c'est exactement le chiffre de la diminution du personnel dans les services de police pendant 10 ans de gouvernement conservateur? En réalité, tout cela, ce sont des élections du Père Noël, c'est-à-dire que l'argent a tombé à flot pendant 3 semaines, 1 mois, et aujourd'hui, il va falloir assumer cela. A-t-on aujourd'hui les moyens de rénover considérablement le service public, comme il l'a dit? C'est pas possible, il n'y a plus d'argent dans les caisses, ou alors cela contribuera à l'endettement de l'État.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe au Royaume-Uni, l'élection qui change et qui accélère le Brexit. Nous sommes avec Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po Paris, et à l'INALCO. Il est l'auteur de L'Europe a-t-elle un avenir aux éditions Studirama. Avec Joey Jones, ancien journaliste et politologue, il est en ligne de Londres. Et avec Sacha Mitchell, journaliste à Courrier International. Sacha Mitchell, tout le monde a évidemment félicité Boris Johnson pour son élection, mais le premier et celui qui a été le plus enthousiaste pour le féliciter, ça a été évidemment Donald Trump. Et c'est pas forcément un hasard.
Non, absolument. On les a beaucoup comparés pendant la campagne. On les a comparés aussi au moment où Boris Johnson est devenu Premier ministre, donc fin juillet dernier. Est-ce que c'est parce que la chevelure est assez similaire ou est-ce que c'est le style populiste? En tout cas, effectivement, Boris Johnson, ce qu'il veut faire une fois le Royaume-Uni sorti de l'Union européenne, c'est bien sûr se tourner vers les États-Unis, qui sont le partenaire, la relation spéciale, et il y voit, et bien sûr Donald Trump voit aussi une opportunité. Pendant la campagne, il a beaucoup été question du service de santé. C'était la carte que le Parti travailliste a essayé d'abattre dans les derniers jours de la campagne, à savoir sortir un document qui montrait que les hauts fonctionnaires, que les officiels qui sont en train déjà de préparer un futur accord commercial avec les États-Unis n'excluait pas de mettre le NHS, donc le système de santé public, sur la table, comme on dit, c'est-à-dire de l'ouvrir en tout cas à la concurrence ou en tout cas de le privatiser. Donald Trump est venu pour les 70 ans de l'OTAN, il a dit ce n'est pas vrai, c'est absolument faux, même si vous m'offrez le NHS sur un plateau, je ne le prends pas, il reste quand même quelque chose que les États-Unis vont certainement avoir en tête.
Alors évidemment, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Avec Boris Johnson et Donald Trump, évidemment, il faut écouter plutôt deux fois qu'une. Joey Jones, la bourse a frétillé au lendemain de ces élections. Est-ce que cela peut durer? Est-ce que l'économie britannique est partie sur de bonnes rails avec ce Brexit, comme la bourse de Londres a semblé le croire, en tout cas, en frétillant?
Ce n'est pas juste le Parti conservateur qui parlait d'investir dans les services publics. C'était tous les partis, en fait, qui étaient largement en accord là. Et je veux juste revenir sur les contradictions de Boris Johnson. C'est sûr qu'il y a plein de contradictions. Moi, j'irais un peu plus loin, en fait, pour préciser. Je crois que le problème pour les gens qui n'aiment pas Boris Johnson, c'est l'hypocrisie du Premier ministre qui les inquiète, ou pire. Et c'est vrai que c'est entièrement hypocrite de lui de faire comme s'il ne faisait pas partie d'un gouvernement conservateur depuis 2010. Mais il l'a fait, et l'électorat semble tout à fait d'accord avec ça. Alors je crois que c'est peut-être étrange et c'est peut-être hypocrite ou contradictoire, mais je crois que tout le monde doit s'attendre à un nouveau gouvernement. C'est pas juste le même parti conservateur, c'est un parti conservateur avec Boris Johnson qui est très différent, mais aussi avec Dominic Cummings et beaucoup de députés qui viennent maintenant du nord de l'Angleterre ou de Midlands, c'est-à-dire les régions industrielles. Et je crois qu'on va voir un ton et des politiques très différents de ce qui est allé avant. Contradictoire peut-être, mais ce sont les faits et l'électorat l'a accepté.
Sacha Mitchell, vous voulez réagir?
Oui, tout à fait. Non, juste pour prolonger ce que disait Joey Jones, c'est le fait que le Parti conservateur, historiquement, ce qui lui a permis d'être aussi longtemps et aussi souvent un parti de gouvernement, c'est d'avoir réussi à se réinventer très régulièrement. Et là, il est en train de se réinventer en partie du Brexit, en réalité. C'est-à-dire que Johnson et May, avant lui, étaient bloqués par une partie de députés, une frange qui était très europhile. Cette frange a été exclue du parti, ou en tout cas du groupe parlementaire en septembre. Désormais, ils ne sont, pour l'écrasante majorité, ils se présentaient comme indépendants là, pendant ces élections. Ils n'ont pas été élus. Donc là, il a 365 députés qui ont effectivement, qui le soutiennent, qui le soutiendront dans sa politique quasiment quoi qu'il arrive.
Alors justement, Patrick Martin-Genet, quelle va être la politique que peut mener Boris Johnson? Il a cette majorité qui lui permet de tout envisager, de tout faire passer, comme vient de nous l'expliquer Sacha Michel. Alors, au niveau européen, après les grandes déclarations d'un pays qui va enfin retrouver sa souveraineté, finalement, quelle relation Boris Johnson peut-il conclure avec l'Union européenne? Celle que voudraient les hard Brexiteurs, c'est-à-dire un service minimum avec l'Union européenne, ou au contraire, la plus étroite des relations possibles, dans le cadre, évidemment, d'un accord de libre-échange?
Mais est-ce que Boris Johnson le sait lui-même? C'est la difficulté aujourd'hui, on vient de l'évoquer. En réalité, vous évoquiez les europhiles, il y avait aussi les europhobes de l'ERG, du groupe de recherche qui était dirigé par Jacob Rees-Mogg, qui a disparu des radars, parce que c'est quelqu'un qui était absolument impopulaire au Royaume-Uni. Donc ça veut dire que Boris Johnson, aujourd'hui, est capable de faire tout et son contraire. C'est-à-dire qu'il est capable d'avoir une approche très dure, mais également de revenir à une approche plus modérée, plus centriste. Alors vous dites, est-ce qu'il va aller vers le grand large? C'est vrai que le Royaume-Uni est toujours allé vers le grand large. Rappelons-nous l'expression de Winston Churchill, hein, s'il faut choisir entre le grand large ou l'Europe, on choisira toujours le grand large. C'est vrai qu'il a dit que le service national de santé n'était pas à vendre. En réalité, Jeremy Corbyn a quand même sorti des accords secrets en disant que des négociations avaient eu lieu. Que va-t-il faire ? Très concrètement, le 1er février 2020, rien ne va changer en réalité, rien. Pourquoi ? Parce que il va faire d'abord ratifier. Que va-t-il faire mardi ? Il va changer, il va remodeler son gouvernement. Donc on va bien voir quelle sera la configuration politique de ce gouvernement. Il faudra en tirer toutes les conséquences politiques. Est-ce qu'on aura des gens plus modérés ? Est-ce qu'on aura des gens à la frange extrême ? Votre correspondant à Londres disait que Cummins, le conseiller, qui est un homme très dangereux au final, parce qu'il est très à droite, eh bien pourrait effectivement emporter la majorité au sein du cabinet. On verra bien. Et mardi se réunit donc la Chambre des communes et le discours de la reine jeudi. Donc ce qui sera intéressant, c'est de voir ce qui sera dans le discours de la reine, qui naturellement est rédigé par le Premier ministre. Mais en tout cas, l'accord de retrait, tel qu'il a été négocié par Theresa May et Boris Johnson, qui a été modifié à la marge sur l'Irlande du Nord, sera ratifié. Et il doit être ratifié avant la fin du mois de janvier 2020, de façon à ce qu'une phase de négociation provisoire, transitoire, commence le 1er février, censé terminer au mois de décembre 2020. Mais vous aurez vu que l'Europe, sur ce point, est extrêmement sceptique.
Alors évidemment, on va parler de l'Europe, parce qu'évidemment, ça intéresse aussi les Européens. Les Européens ont un regard sur ce Brexit. Mais avant, John Jones, on n'a vraiment aucune idée de la position que va adopter Boris Johnson, soit celle des hard Brexiteurs, comme je l'expliquais, soit au contraire, bien une position plus, je dirais, plus égalitaire avec l'Union Européenne, l'idée d'avoir une relation forte avec l'Union Européenne, même en dehors de l'Union Européenne.
Non, on n'a pas vraiment d'idée. C'est un peu un énigme. Encore une fois, ça paraît probablement très étrange qu'il a pu passer ces 6 semaines de campagne électorale sans vraiment donner une idée du chemin qu'il poursuivrait pendant 2020. La seule chose qu'il a dit, c'est que il achèvera un accord avant la fin de l'année. Même ça, pour être honnête, je crois qu'il pourrait y avoir des compromis plus tard. Je crois que pour lui, il a montré dans ses réunions avec Leo Varadkar à Liverpool avant l'accord qui a été résolu avec l'Union européenne, qu'il est prêt à faire des compromis. Je suis sûr qu'on pourrait attendre à des compromis encore, parce qu'il ne veut pas que ça dure très très longtemps. Je dois juste une chose, on ne devrait pas trop caricaturer Dominic Cummings. Certes, il est de droite, mais il est complètement méprisant des Brexiteurs du Parti conservateur. Il déteste les gens comme Steve Baker, Jacob Rees-Mogg, et il n'a jamais caché son mépris. C'est vraiment quelqu'un qui veut tout changer dans les façons de travailler du gouvernement, et c'est peut-être quelqu'un de dangereux, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas un danger qu'on a jamais vu ces dernières années. C'est quelqu'un de vraiment révolutionnaire.
Alors, Patrick Bazin-Génier, pour le lancement de cette deuxième saison du Brexit, hein, le temps est compté puisque ce deuxième round, vous l'aviez un peu abordé, de négociation doit s'achever impérativement le 31 décembre 2020, soit 11 mois après la mise en place du Brexit, je rappelle, 31 janvier de l'année 2020. Or, il a fallu plus de 2 ans pour négocier le simple divorce, un accord d'une grande simplicité par rapport à celui qu'il va falloir négocier. Vous y croyez, vous, à cette possibilité d'avoir un accord en 11 mois?
Écoutez, si on en croit Madame von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, Monsieur Charles Michel, président du Conseil européen, et Angela Merkel, qui était très inquiète à l'issue du Conseil européen, ce serait étonnant qu'au mois de décembre 2020, on ait tout résolu, notamment les modalités d'accord commercial avec l'Union européenne. Il va falloir négocier plusieurs accords, notamment, par exemple, sur les exportations, sur les taxes et sur la politique de la pêche. Vous savez qu'il n'y a rien en matière d'accord sur la pêche. L'essentiel des poissons sont pêchés dans les eaux territoriales britanniques. Rien n'est réglé sur ce point. Sur la fiscalité, est-ce qu'on va avoir un Singapour sur Tamis, c'est-à-dire un pays qui va faire du moins-disant fiscal, du moins-disant social? Il y a eu un vrai débat, mais aujourd'hui, nous n'avons pas abordé ce débat, car l'Union européenne ne serait acceptée qu'on ait à ses portes un pays qui veuille le beurre, l'argent du beurre, c'est-à-dire avoir une meilleure fiscalité et pouvoir assurer la libre circulation des marchandises.
Et on vous arrêtait à temps sur la...
Oui, non, parce que c'est le sourire de la crémière ou du crémier. Il ne faut pas faire de discrimination. Donc, effectivement, mais ils veulent tout. Et en même temps, ils veulent avoir un super accord commercial avec les États-Unis. Il faut que le Royaume-Uni comprenne qu'on ne pourra pas signer un accord commercial avec les États-Unis tant qu'on n'aura pas réglé les modalités d'une association commerciale avec l'Union européenne.
Sacha Mitchell.
Effectivement, dans cette optique-là... Il y a un point de vue qui m'a semblé assez intéressant, là aussi dans The Spectator, c'est celui de Ivan Rogers, qui est l'ancien ambassadeur britannique auprès de l'Union européenne, et qui disait, et ça rejoint un peu ce que disait Joey Jones aussi tout à l'heure, pour jusqu'à quel point est-ce que Boris Johnson va devoir faire des compromis dans la deuxième phase des négociations. On a beaucoup parlé des barrières douanières, parce qu'effectivement, il y a la question de la pêche, il y a la question des importations, par exemple, de nourriture. Le Royaume-Uni importe 40% de ses denrées alimentaires, mais on a très peu parlé pendant la première phase des services. Or, 80% du PIB britannique, ce sont des services. Et pour garder une proximité avec le continent, avec l'Union européenne, il va falloir à un moment donné... Pour Boris Johnson, à moins de complètement détruire le secteur des services ou en tout cas de l'affaiblir beaucoup, il va falloir qu'il fasse des compromis et peut-être même jusqu'à... C'est assez difficile à croire parce que Theresa May l'a déjà exclu et Boris Johnson lui-même l'a exclu sur la liberté de mouvement parce que c'est le corollaire de l'accès des services au marché unique.
Joe Jones, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne dépend beaucoup de l'Union européenne dans ses échanges commerciaux. Le cas de l'industrie automobile qui est florissante au Royaume-Uni, même s'il y a des marques britanniques ont disparu, c'est un vrai casse-tête parce que les pièces viennent du continent, il n'y a pas de stock, on est toujours les pièces détachées arrivent juste au moment où les voitures sont construites. Est-ce que les Britanniques sont conscients à quel point ils dépendent de l'Union européenne ou pas du tout?
Ils sont plus conscients que dans 2015, mais encore pas suffisamment conscients. Je suis tout à fait d'accord avec vos autres interlocuteurs que Boris Johnson devrait préparer le peuple britannique à des choix difficiles dans l'année à venir. Personnellement, je pense que cette idée d'un accord, un grand accord avec les Américains et avec Donald Trump, c'est un mirage et je crois que le président américain est tellement pas fiable il dit quelque chose un jour et puis il change d'avis
parfois dans la même journée
plus tard que ça va être difficile mais je crois que je crois que Boris Johnson il faut qu'il commence à préparer les gens pour ça et pour le moment sa priorité c'est les anciens électeurs travaillistes, surtout dans des villes industrielles, qui seront les plus touchés par un changement radical des relations avec l'Europe. Et ça, pour moi, Ça me fait penser à ce stade, et je dis encore que c'est difficile d'être sûr, mais pour le moment, je pense qu'il va se rapprocher de l'Union européenne et d'une relation qui ressemble beaucoup à ce qu'on a eu jusqu'ici, ou le plus possible.
Patrick Martin-Genier, c'est Michel Barnier qui a conclu la première phase des négociations pour le Brexit. On ne sait pas s'il s'occupera de la deuxième phase. En tout cas, il a déclaré que la relation future devra être fondée sur un équilibre des droits et des obligations. Mm-hmm. Ce qui veut dire que les Européens savent à peu près ce qu'ils veulent et ce qu'ils sont prêts à négocier. Jusqu'alors, les Européens ont été très unis sur le Brexit. Et ça a d'ailleurs surpris les Britanniques. Je crois qu'ils s'attendaient à ce que pouvoir négocier un jour avec les Allemands, le lendemain avec les Français et le surlendemain avec les Italiens ou les Espagnols. Est-ce que, selon vous, cette fermeté, cette unité des Européens, persistera dans cette deuxième phase des négociations, Brexit ou post-Brexit, comme
on sait pas. On verra bien. En tout cas, une information, c'est que Michel Barnier a été reconduit à l'issue du Conseil européen comme négociateur en chef pour l'Union européenne avec le Royaume-Uni. Donc, il va continuer les négociations. Mais il est vrai que ces négociations devront intervenir sur une nouvelle base, car la Commission doit présenter un nouveau mandat de négociation au Conseil européen très rapidement, à l'issue duquel il va entamer cette phase de négociation. Est-ce que l'unité des Européens va être maintenue? Pour l'instant, ça a été le cas. La première phase est passée. La difficulté viendra quand même. Il faut le savoir, au mois de décembre 2020. Si jamais il n'y a pas d'accord, il y a des difficultés, parce que certains évoquent 6 ans, 7 ans pour des négociations, eh bien, il pourra dire non, je vous ai promis, let's get Brexit done, faisons le Brexit. Eh bien, si c'est bloqué, il pourra décider de partir sans accord, et là, ça aurait peut-être une catastrophe, et là, il risque d'y avoir des divisions entre les États européens.
Oui, effectivement, c'est une possibilité qui est encore
tout à fait,
tout à fait envisageable.
Sans accord, c'est tout à fait envisageable, et il est toujours au chantage, en disant, attention, je vous dois entre 50 et 60 milliards d'euros, je pourrais ne pas payer cette somme d'argent.
En tout cas, le prochain rendez-vous Brexit pour nous et pour les Britanniques, ce sera le 31 janvier. Et évidemment, au Carrefour de l'Europe, nous en reparlerons encore de ce fameux Brexit. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Jean-Philippe Thury. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres en podcast ou en balado-diffusion, comme on dit au Québec, deux possibilités, le site RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio. On reste en contact via Twitter et Facebook. Daniel Desesquelles, que vous soyez à Londres, Édimbourg, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, présenté par François Bernard. Au revoir.